Émission en jase, il est 13h06. On parlait de Gabriel Giguère. Également dans l'émission, je vais absolument vous parler d'un texte d'opinion que j'ai lu dans Le Soleil. Super intéressant. On va faire un lien avec le tramway et le TGV. C'est les difficultés de vendre des projets futurs dans le présent. T'es Mathias, on dit toujours « Ah, maudit tramway, ça coûte ben trop cher. Puis hey, le TGV, ça n'a pas d'allure, nos terres agricoles, puis tout ça. » Mais il y a toujours quand même des retombées positives à long terme. Mais sont toujours plus faibles que les désagréments à court terme.
Oui.
Et c'est le texte, justement, c'est la lettre d'opinion de Pierre Simard, professeur retraité à l'ENAP dans le Soleil. Faut absolument que je vous en parle. Je vais vous parler des caractéristiques précises qu'il nomme. Je trouve tellement que ça représente bien l'immobilisme de la CAQ dans les 8 dernières années. Ici,
de dire,
dans la région
rien
de Québec.
Bouge, aucun dossier bouge.
Exactement. Et il met, ouais, c'est ça. Puis il met le doigt vraiment sur des éléments clés que je vais te les nommer. Tu vas dire, hey, ben oui, on a jasé de ça dans le tramway.
Qui reviennent dans tous les dossiers.
Qui reviennent dans tous les grands projets d'infrastructure. Okay. Je vais t'en nommer, tu vas dire, ben oui, on s'assigne là-dessus encore sur le troisième lien. C'est super intéressant comme texte.
J'ai hâte de voir.
Oui, je vais vous le faire découvrir après la prochaine pause. C'est vraiment très intéressant. Pierre Simard, professeur retraité à l'ENAP. Je retrouve un bon chroniqueur. Je pourrais même dire un ami. Un gars avec qui j'adore parler. C'est Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal et analyste politique senior. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va bien. Salut, JF. Salut, Mathias.
Hey, Gab, hier, je faisais ma petite tournée de médias sociaux. Puis là, je tombe sur une étude de l'Institut économique de Montréal qui me dit « Hey, il y a plus de 10 000 fonctionnaires fédéraux qui demandent une retraite anticipée. » Fait que là, je me dis « Bonne nouvelle! Enfin, on dégraisse cet état-là. » Mais après ça, je tombe sur ton texte qui me dit « Ouais, c'est parce que Justin Trudeau l'avait engraissé pas à peu près. » Raconte-nous la catastrophe Trudeau.
Ben, la catastrophe Trudeau, hein, faut se rappeler, c'est quand même une décennie, là. Donc, on en a eu pour notre rhume bien en masse. Mais ce qu'on a vu, c'est quand même que on a passé là d'un état d'environ 250 000 employés au Canada, au fédéral, à 350 000, 360 000. Donc, ça a augmenté de plus de 100 000 employés sous Justin Trudeau. Là, c'est inédit là comme augmentation. Et ce qu'on voit là avec cette augmentation de 40 % de l'ensemble là, de l'administration publique fédérale, c'est qu'aujourd'hui, Mark Carney se dit, ben ça n'a pas eu de bon sens, là. Sous Justin Trudeau, on va réduire le nombre de fonctionnaires. Alors, ça s'inscrit, là, dans cette logique-là, de dire, ben là, après 100 000, faut en réduire. On essaie de réduire de 37 000. On propose des retraites anticipées. 10 000 fonctionnaires disent oui. Alors, ça va dans la bonne direction, c'est évident, mais c'est tellement allé loin dans la mauvaise direction, sous Justin Trudeau, que ça a des impacts très concrets. Là. On a augmenté de plus de 30 % l'impact de la rémunération sur les dépenses publiques depuis 2019. Ça fait un trou dans les dépenses publiques. Et ça, ben, c'est nous, collectivement, qui allons devoir payer ça. Alors, il faut réparer beaucoup de pots cassés, malheureusement, en matière de dépenses publiques, d'embauche de fonctionnaires. Il y en a eu des pots cassés sous Justin Trudeau.
Oui, exactement. As-tu confiance en Mark Carney et à Joël Lightbound, le ministre québécois qui est justement en charge de revoir justement les fonctionnalités de l'État? Bon, honnêtement, Joël Lightbound, je l'estime beaucoup. J'ai l'impression que les libéraux vont quand même faire un bon pas de l'autre côté de la rivière par rapport à Justin Trudeau. Je me trompe-tu?
Non, tu te trompes pas. Je pense que c'est très clair que depuis le début, il y a déjà des éléments là, du nouveau gouvernement de Mark Carney qui sont à souligner parce que ça va pas dans la bonne direction. Le déficit a augmenté. Il y a certaines choses, mais il faut quand même le dire, là, une baisse des fonctionnaires, je pense que c'est important. Puis il y a d'autres choses. Hein. On a parlé des fonctionnaires, mais tout ce qui est réglementation mise en place qui vient étouffer l'industrie du secteur, en fait, de pétrole et gaz. On a vu la taxe carbone, le plafond d'émissions de GES du secteur, l'interdiction de méthanier de s'accoster sur la côte de la Colombie-Britannique. Il y a d'autres également, là, réglementation C69, qui est la longue évaluation environnementale qui vient réduire les investissements. Donc, on a adopté plusieurs réglementations qui étouffent le secteur. Et quand Mark Carney est arrivé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de mettre de côté une partie de la taxe carbone, notamment celle qui est payée par les consommateurs à l'essence. On a mis de côté le plafond d'émissions. On réfléchit sur l'interdiction des méthaniers. Bref, on essaie de détricoter ce qui a été tricoté par le gouvernement de Justin Trudeau et qui a réellement nuit à l'industrie et à l'économie canadienne plus largement. Donc, il faut le dire quand même, il y a des bonnes choses qui se font et qui vont se faire. Il y a actuellement une étude là, justement pour tout revoir, comment ça fonctionne au Canada, les grands projets, parce que c'est long, c'est coûteux, il y a de l'incertitude. Puis ça, mais les investisseurs qui veulent investir, pas juste 4-5 piastres, là, des milliards et des milliards de dollars, ils vont aller aux États-Unis avant d'aller au Canada. Puis ça, on le voit, là, il y a une évolution dans les sondages envers les investisseurs qui disent qu'au Canada, c'est moins intéressant. Il y a plus d'incertitudes. La réglementation est plus coûteuse, moins intéressante. Et donc, ce détricotage-là des mauvaises politiques publiques mises de l'avant par Justin Trudeau, il faut le mentionner, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on a justement à revenir en arrière plutôt que simplement d'aller dans la meilleure direction. Là, on défait ce qui ne fonctionne pas.
Est-ce qu'on peut dire que Justin Trudeau avait une vision du Canada qui diffère complètement de tout ce qu'on a eu par le passé, puis je m'explique, on aime ça mettre des libéraux puis des conservateurs aux antipodes, mais tu regardes un Mark Carney, tu regardes un Jean Chrétien, côté économique, on se rapproche quand même beaucoup plus des conservateurs historiquement du côté libéraux que ce qu'on a pu voir avec Justin Trudeau.
C'est un commentaire vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une forme de plasticité du gouvernement libéral. Hein, on peut être beaucoup plus en faveur du développement économique, ou on peut retourner de bord avec un Justin Trudeau. Il est clair que Justin Trudeau puis le gouvernement de Justin Trudeau avait une vision qui était différente. Hein. On n'allait pas vers le développement économique, on mettait une succession de réglementations qui venaient étouffer un peu le développement économique, sinon beaucoup. Puis quand on regarde les chiffres là, de croissance du PIB par habitant, concrètement, on a une grosse tarte, la tarte économie, puis les pointes de tarte, c'est le nombre d'habitants. Mais les pointes de tarte, là, elles n'ont pas grossi. Autrement dit, en tant que Canadien, en tant qu'individu, on n'a pas eu d'amélioration substantielle de notre qualité de vie. Puis ça, bien, il y a des raisons qui sont liées à Justin Trudeau. J'ai parlé non seulement de l'augmentation des dépenses publiques, donc de la dette, de l'imposition, il y a également la réglementation. Puis un autre élément que Justin Trudeau est venu faire également avec son gouvernement, bien, c'est d'augmenter le taux marginal maximal de taxation. On est passé de 29 % quand vous faites plus de 200 quelques mille au fédéral à 33 %. Donc, quand on vient combiner ça au Québec, quand vous faites plus de 250 000, vous êtes taxé à 53,3 % aujourd'hui. Et donc, on peut dire, oui, c'est la juste part. Mais en réalité, quand on regarde les études puis on applique là, les formules compliquées là, d'économétrie, ce qu'on voit, là, c'est que cette augmentation de la taxe, elle a fait en sorte que presque 10 000 entreprises au Canada n'ont pas été créées. Et dans un contexte, on va le dire quand même, depuis la pandémie, où il y a une chute de l'entrepreneuriat au Canada, au Québec, c'est très dommage parce qu'on est allé de l'avant avec des mauvaises réglementations, plus de fardeau fiscal. Donc, collectivement, c'est nous qui perdons.
Gabriel, quand je pense à l'ère Justin Trudeau, je pense aussi à la filière batterie. Puis ça, quand j'ai eu une entrevue avec Joël Lightbound, je l'ai dit, c'est un politicien que j'estime beaucoup. J'ai pas aimé sa réponse quand j'ai dit « Ouais, mais vous êtes embarqué dans la filière batterie, vous aussi. » François-Philippe Champagne a fait énormément de stepettes et de représentations auprès du gouvernement du Québec. Puis il s'est vanté en disant « Ouais, mais au fédéral, on ne dépense aucun argent. C'est juste parce que les programmes fonctionnent différemment du Québec que du fédéral. Parce que si tu mets François-Philippe Champagne au provincial, il va dépenser autant d'argent que ce que François Legault aurait fait. Sens-tu qu'il va y avoir moins d'interventionnisme du côté de Mark Carney également?
Bien, c'est intéressant. Je pense absolument pas qu'il y aura moins d'interventionnisme. Puis ce que M. Lightbound a dit est vrai, mais ne capture pas la réalité telle qu'elle est. Donc, je suis content quand même que tu recadres un petit peu la réponse parce que oui, il n'y a pas eu d'argent engagé, mais c'est quand même le gouvernement de Justin Trudeau et ses ministres, hein, faut le dire, François-Philippe Champagne, qui est, on pourrait dire, le ministre de la filière batterie, où on est arrivé avec Stellantis, Volkswagen, Honda, Northvolt au Québec. Bref, c'est des dizaines de milliards de subventions où on s'était engagé. Alors vraiment, ça, c'est une mauvaise chose. C'est évident. Tous les Québécois aujourd'hui, tous les Canadiens le savent que c'était une grave erreur. Maintenant, la raison pourquoi je te dis non, JF, c'est quand je regarde qu'est-ce qui est proposé par le gouvernement de Mark Carney, c'est un fonds souverain. Un fonds souverain pour venir financer des projets de développement économique plutôt que simplement changer la réglementation et le cadre fiscal pour être plus attractif. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on veut potentiellement privatiser les aéroports, qui est une mesure que je soutiens par ailleurs, il faut être clair. Mais cet argent-là devrait réduire le déficit, devrait repayer une partie de la dette, même si c'est une petite partie, pas d'arriver avec une vision de politique industrielle où le gouvernement est le maestro du développement économique. Malheureusement, sur ce point-là, on reste encore dans une dynamique de Justin Trudeau. Et pour finir, parce que c'est vraiment important, les fameux programmes sociaux qui ont été mis de l'avant par Justin Trudeau, mais qui étaient de compétence provinciale, M. Carney ne les remet pas en cause et je pense que c'est nocif parce que ce n'est pas soutenable pour les finances publiques du fédéral.
Oui, tu penses nécessairement à l'aide dentaire et à ce type de programme-là, j'imagine.
Absolument, qui va être très, très coûteux et qui, au final, quand on demande au gouvernement du Québec, ne voulait pas. Donc, c'est de compétence provinciale, ouais, d'une part, et ça coûte des milliards et des milliards de dollars dans un contexte, rappelons-le, mm-hmm, où on a plus de 65 milliards de déficit. Je pense que c'est mal avenu de simplement les conserver. Il y avait une forme de, je veux pas dire tête en l'air, mais d'insouciance de la part du gouvernement Trudeau qu'on veut conserver parce que politiquement, c'est peut-être coûteux de les abolir, mais c'est nécessaire pour les prochaines générations.
Oui, mais électoralement, ça demeure un petit peu payant parce que ça permet aux libéraux de jouer dans ce fameux centre très élargi puis d'être au pouvoir depuis une dizaine d'années.
C'est mon avantage de ne pas être politicien et d'être un simple analyste en politique. Ça me permet de dire ce qui n'est pas populaire électoralement.
Exactement. Gabriel Giguère, toujours un plaisir de te parler. Tu me fais signe dès que tu as un sujet d'intérêt comme celui-ci. C'était très intéressant cette comparaison entre Mark Carney et Justin Trudeau et de savoir qu'au moins on a pris quelques tangentes dans la bonne direction avec Mark Carney.
À bientôt, messieurs.
Salut, merci. Gabriel Giguère, analyste politique à l'Institut économique de Montréal. Vous en pensez quoi? Êtes-vous satisfait du travail de Mark Carney depuis son arrivée en poste au 418-971-1021? Moi, honnêtement, globalement, je suis satisfait.
Mais beaucoup plus que ce qu'on avait sous Justin Trudeau, tu sais. Puis on a eu un texto à cet égard-là que Justin Trudeau n'était pas un libéral, c'était un peu un NPD caché. Moi, je suis un peu d'accord avec ça.
Justin Trudeau, d'accord.
Tu regardes historiquement les libéraux, maintenant que Justin Trudeau est passé, on les associe à une gauche économique et tout, mais tu regardes historiquement les premiers ministres libéraux ne faisait pas de déficit non plus.
Jean Chrétien
a eu des surplus durant ses mandats.
Paul Martin avait mis à hache justement dans les dépenses de la fonction publique.
Donc, on gérait les finances publiques, j'ai envie de dire, d'un côté économique, un peu comme les conservateurs le font ou un peu comme les conservateurs veulent le faire.
Bien, de toute façon, si tu regardes le pendant libéral au provincial, c'est le gouvernement de l'austérité.
Exact.
Fait qu'au fédéral, on avait le même schéma et le courant de pensée.
Ou qu'on changeait beaucoup entre des libéraux et des conservateurs à l'époque, c'était sur l'aspect social. C'est là qu'on divergeait.
Exactement.
De droite et de gauche. C'était pas sur le plan économique.
En effet.
Donc là, d'avoir un retour, puis là, je comprends que Mark Carney continue à faire beaucoup de déficits. Ça, c'est un peu ça qui me met inconfortable.
Moi aussi. C'est pour ça que j'ai
mandat.
Dit globalement.
Ouais, c'est ça. C'est pas tout est parfait. Mais de reprendre une voie économique un peu plus à droite, comme qu'on a vu historiquement, puis qu'on a eu historiquement au Canada, ben j'ai pas le choix de dire que c'est une bonne chose.
Quand on regarde comment l'histoire s'est dessinée, par contre, on comprend pourquoi les libéraux avaient choisi un chef un peu plus à gauche. Puis là, nonobstant le nom Trudeau, là, c'est sûr que ça a attiré les libéraux en disant « Avec Trudeau, on va gagner ». Mais il a été élu à titre de premier ministre le 4 novembre 2015. On sortait de la vague orange avec Jack Layton et la NPD.
Fait
donc,
qu'on allait chercher la vague orange.
Exactement. Il y avait un courant social, économique, je vais même dire politique environnementale, qui était là à ce moment-là au Canada en 2015, qui n'est plus là parce que là, les gens se disent « Ouais, attends une minute, je peux bien sauver la planète, mais si crime, je deviens itinérant, ça ne me servira pas plus. » Tu comprends mon exagération, là, mais dans le sens que...
Mais c'est qu'à l'époque, ça se passait, tout se passait bien. Moi je l'ai dit, là, tu retournes à cette époque-là, les maisons coûtaient pas cher, la nourriture était abordable, les salaires étaient bons.
Ben, on venait de succéder Jean Chrétien et Stephen Harper, donc ça allait bien au niveau économique.
Ça se passait de façon exceptionnelle, donc à cette époque-là, c'est normal que là, hey, notre vie va tellement bien, on va commencer à se préoccuper de d'autres
points.
C'est
un bon point que tu amènes, j'aime ça. C'est entièrement raison. On s'est comme mis à se préoccuper de dossiers qui concernaient pas juste le Canada, parce que t'sais, l'environnement, c'est mondial. Puis, on a voulu être les fers de lance de ces nouveaux thèmes-là. T'sais. On a voulu être le pays le plus environnemental. On a voulu être le pays qui développe la filière batterie. On a voulu être des fers de lance, mais on s'est planté.
Quand que t'as de la nourriture sur la table, que t'as un logement au-dessus de la tête, qu'il te reste de l'argent à la fin du mois, puis que ça se passe bien, ben que tu trouves des soucis ailleurs. Puis c'est à ce moment-là que le souci environnemental a pris beaucoup de place. Pourquoi? Parce que le monde avait plus peur d'arriver à la fin du mois. Ouais. Donc là, hey, maintenant que moi, je suis fier à mes besoins, hey, faudrait peut-être commencer à se poser des questions sur l'environnement. Puis c'est revenu populaire. Puis là, on voit un contrebalance justement parce que...
Ouais, parce qu'on est allé trop dans le pendant.
C'est ça. Puis là, on a d'autres priorités parce qu'on est revenu dans mettre la nourriture à la fin du mois, c'est difficile. Se loger,
exactement,
c'est difficile. Fait que dans ce temps-là, ta priorité, c'est pas de sauver la planète, c'est de te sauver toi.
En plein ça. Donc, Justin, je ne m'ennuie pas. Serge qui écrit « Carnet bonnet blanc, blanc bonnet, de la poudre aux yeux. Il fait quoi depuis son élection? J'en ferai des déficits comme lui. » C'est pour ça que j'ai dit globalement, Serge, parce que moi, honnêtement, les déficits...
C'est problématique.
Oui, exactement, c'est problématique. Tu sais, je comprends que dans certains pans de récession économique, là, il peut en avoir, mais en temps normal, tu devrais être capable de boucler le budget tout le temps. C'est ce que Justin Trudeau n'a pas été capable de faire. Par contre, où est-ce que je suis satisfait de Mark Carney? Moi, je vais le dire, je trouve que, premièrement, il tisse des liens très importants avec le continent européen. Il a réussi à bien diversifier l'économie, une première étape. On l'a vu dans les chiffres qui étaient sortis dans la presse, qui ont été confirmés par Gabriel Giguère, à l'effet que les exportations qu'on avait perdues des États-Unis, on a été chercher une grande proportion en Europe, à peu près 85%, donc c'est quand même un chiffre, moi, qui m'a étonné, qui m'a agréablement étonné. Puis, au-delà de ça, on voit que c'est un homme d'État, on voit que c'est une personne qui est bien calée au niveau économique, puis juste la diminution de 10 000 fonctionnaires par retraite anticipée, ben moi, je trouve déjà que c'est un bon coup. Fait que ça, je dis, globalement, je suis quand même satisfait parce qu'il a fait des bons coups. Mais oui, tu sais, le déficit qui traîne et qui traîne, puis là qu'on me le dit que c'est un déficit d'investissement puis que ça va rapporter, c'est ça, c'est un déficit.
Un déficit monstre aussi, il y a beaucoup... De un, il y a l'air de s'en foutre de la démocratie, ça aussi, ça vient me chercher.
C'est vrai, t'as raison, mais moi aussi, ce côté-là, je l'aime pas avec le fait qu'il n'y ait jamais à la Chambre des communes.
Jamais à la Chambre des communes, mais beaucoup de lois en place pour... assouvir plus de pouvoir central, pour centraliser le pouvoir beaucoup de un autour de lui,
en effet,
mais autour de son parti pour empêcher le travail des oppositions.
Puis il va jouer beaucoup dans les paliers de compétences compétences provinciales.
Donc ça
c'est des points négatifs,
oui, oui,
entièrement
ça m'énerve beaucoup.
Parce que ça, je suis globalement satisfait, mettant globalement, mettons, à 55% positif, 45% négatif.
Son prédécesseur était
tellement
pas
mauvais. C'est ça.
Exactement. Ça, c'est facile.
Mais voyons voir, on pourra le juger au bout de 4 ans maintenant qu'il est allé acquérir sa majorité de façon pas très démocratique. Ça aussi, ça m'a énormément déplu. J'aime mieux une dette que Poilievre. Nous écrit un autre auditeur, auditrice. Ouais, bien, c'est sûr que le Parti conservateur va toujours avoir des gens qui vont être très réfractaires à eux ici au Québec parce qu'il y a plusieurs valeurs, malheureusement, pour eux qui ne sont pas en adhésion avec ce qu'on a ici au Québec. Donc c'est tout simplement la norme.
Hey Jeff, j'ai pas le choix d'aller faire un petit tour
circulation.
Sur la route avant parce que, hey, crime que c'est un bordel. Pour de vrai, là, c'est un bordel dans plusieurs secteurs. À commencer par le pont Pierre-Laporte. Il y a un accident de l'autre bord, ça, à hauteur boulevard Champlain, en direction nord. La voie de droite et la voie du centre qui est présentement bloquée. Puis X, c'est pas beau. La 73, là, c'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à rue Beaulieu. Sur la 20, direction ouest, ça remonte après route des rivières, pare-choc à pare-choc aussi. En direction est, même chose. C'est... Pour de vrai, là, accéder au pont Pierre-Laporte, en ce moment, c'est dégueulasse. Accéder au pont de Québec, en ce moment, c'est dégueulasse en direction nord. Donc, si vous êtes capable de retarder là, peut-être de 30 minutes votre chemin vers la rive nord, ce serait à faire. J'ai pas le choix de vous dire aussi, un peu avant route Lagueux, il semble avoir de quoi 20 direction ouest. J'ai pas nécessairement de détails, mais il y a un bon ralentissement aussi. Pare-choc à pare-choc dans le secteur, probablement un accident. Maintenant, 20 direction ouest entre Taniata et Chemin des Îles, quand même un ralentissement. Guillaume Couture, du pare-choc à pare-choc dans le secteur de Chemin du Fleuve en direction ouest. Je vous transporte sur la rive nord maintenant parce qu'il y a eu un accident au cours des dernières minutes. Intersection boulevard Wilfrid Hamel et Duplessis Nord. Deux voitures qui sont rentrées en collision. Duplessis, direction nord, la voie du centre gauche et la voie du centre droite. Donc, les deux voies du centre qui sont présentement bloquées dans le secteur. Sur Wilfrid Hamel ouest, la voie de droite qui est bloquée.
Les services d'urgence sont sur place. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Après la pause, je vous parle de cette lettre d'opinion dans le soleil d'un ex-enseignant au niveau de l'ENAP, donc à l'Université du Québec, Pierre Simard, où il nous dit pourquoi les grands projets commencent rarement par un premier coup de pelle, mais généralement par une pétition et de l'opposition. Et on va faire également quelques manchettes avec Mathias Turcotte. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Oh,